Bienvenue sur 2024, le nouveau podcast de championne du monde qui part à la rencontre d'une athlète qui a toutes ses chances de médaille pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 20 minutes de podcast tous les 24 du mois pour découvrir vos nouvelles sportives préférées dans des sports un peu moins médiatisés mais que vous allez adorer. Parce que tout le monde mérite la lumière et que vous serez trop fiers de les connaître, dites bonjour à vos espoirs pour Paris 2024. Mon date du jour, c'est Vanina Paoletti, 26 ans et athlète en kayak sprint. En une phrase, pour Vanina, le kayak c'est une histoire de famille, un mode de vie qu'elle embrasse avec un objectif, prendre un maximum de plaisir. Salut Vanina!
Salut Cléo!
Comment vas-tu?
Ça va bien et toi?
Oh bah écoute, moi ça va toujours. J'ai peu dormi cette semaine, mais je suis en pleine forme.
Ah oui.
Vanina, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui pour 2024, qui est donc le nouveau format de championne du monde spécifique sur cette année olympique. Et aujourd'hui, on va parler de kayak.
Exactement.
Une très belle discipline.
Ah, magnifique, la meilleure. En toute objectivité, bien sûr.
Tu ne vas pas dire le contraire. Vanina, ma première question, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Vanina Paoletti, j'ai 25 ans, bientôt 26, je triche à quelques semaines près. Je suis la petite sœur d'une fratrie de trois sœurs et je pratique du coup le kayak sprint, voilà, qui est une discipline qui n'est pas très connue. C'est de la confrontation directe en eau calme et que je pratique en monoplace, biplace et quelquefois quatre places.
Alors, deuxième question, forcément, parce que c'est vrai que dans le kayak et dans le canoë-kayak, il y a pas mal de disciplines. Mmh. On entend peut-être un tout petit peu plus parler du kayak de descente, enfin, ou
slalom.
De slalom. Mmh. Et toi, c'est pas ce que tu fais. Est-ce que tu peux expliquer un peu la différence, les caractéristiques de ta discipline?
Oui, bien sûr. Alors, le slalom, c'est plus associé à Tony Estanguet,
tout
forcément. C'est en eau vive. Chacun part tour à tour en haut du bassin et ils ont des portes qui sont de différentes couleurs, donc verte et rouge. Et en fonction de la couleur des portes et des numéros des portes, ils doivent suivre un parcours. Voilà, et on en entend un peu plus parler parce que nos collègues slalomeurs excellent en France.
Il y a pas mal de médailles,
exactement.
Effectivement.
Et on a une belle équipe de France Olympique qui vient de sortir avec Titouan, Nicolas, Marge et Camille. Et je suis sûre qu'ils vont super bien nous représenter.
Et toi, donc, dans ta discipline, pourquoi tu t'es dirigée plus spécifiquement sur celle-ci?
Alors, à l'origine, je ne pratique pas du tout le sprint. Je viens vraiment d'une famille de kayakistes. Mes parents se sont rencontrés sur l'eau. J'ai deux grandes sœurs qui ont été en équipe de France de canoë ou de kayak de descente de rivière. Donc, encore une autre discipline. Mmh. Et en fait, je suis rentrée en Pôle Espoir, comme ça, un peu pas par hasard, parce que j'avais vraiment très envie d'y aller. Mais j'ai découvert cette nouvelle discipline. C'est mes parents qui m'ont un peu poussée en me disant « Allez, c'est un pôle plutôt orienté sprint, demande un bateau. » Et je me souviens encore de moi écrivant mon mail dans les Pyrénées en vacances en famille à Mathieu Le Sénéchal, qui est le coach du Pôle Espoir de Caen, lui disant « Tu veux bien me prêter un bateau, une pagaie ?» Et j'avais trop peur. Et en fait, j'ai complètement adhéré. Déjà parce que les résultats ont rapidement suivi au niveau français et puis parce qu'il y a vraiment une dimension collective en sprint que j'adore et qui me fait redécouvrir ce sport toutes les saisons.
Ça a été, ça a pas été un coup de foudre en fait, ça a été presque un apprentissage de cette discipline.
Complètement, parce que les bases sont quand même les mêmes entre la descente et la course en ligne, le coup de pagaie est relativement similaire. Mais après, il y a toute une appréhension de l'embarcation qui n'est pas du tout la même. Parce qu'en descente, on joue avec les vagues, alors qu'en course en ligne, vraiment, c'est de la glisse pure, c'est de la force pure. Moi, je pratique donc le 500 mètres. C'est à peu près 1,55 d'effort et 1,40 en biplace. Donc, c'est des efforts qui sont assimilés aux 400 mètres en athlée. C'est de l'effort lactique.
C'est les efforts les pires.
Exactement, c'est le goût du sang dans la bouche. C'est vraiment... Mais en fait, j'adore ça et j'aime de plus en plus ça, aller chercher au bout de moi-même.
Quelles sont les caractéristiques spécifiques de ta discipline? Tu l'as dit un tout petit peu, c'est vraiment de la force pure, quasiment.
Alors, c'est complexe dans le sens où il faut qu'on soit fort un peu sur toutes les filières. Déjà, des très bons sprinteurs parce que l'objectif, c'est d'amener le bateau à vitesse max pour ensuite limiter la décélération. Donc, on bosse énormément sur du sprint. À la fois, on bosse aussi la résistance parce que sur les journées de course, parfois, on enchaîne plusieurs compétitions. Donc, on a des gros volumes en aérobie. On fait énormément de musculation parce que, encore une fois, la force, il faut se tracter le plus fort possible sur la pagaie. Et après, c'est quand même un sport qui est très technique. On a un bateau en monoplace qui mesure 5,20 m de long, qui fait la largeur de mes hanches et qui est profilé vraiment pour aller vite. Donc un humain qui n'a jamais fait de course en ligne n'arrivera pas à tenir dans un bateau comme ça en première intention. On a déjà essayé même avec des collègues rameurs de l'équipe moins de 23 il y a quelques années. Les rameurs ne tiennent pas dans un kayak monoplace. Donc voilà, c'est de la proprioception. Et une fois qu'on connaît notre style d'embarcation, c'est vrai que c'est d'autant plus impressionnant de nous voir évoluer sur l'eau et d'appliquer autant de force dans l'eau pour atteindre cette vitesse.
Donc c'est vraiment, comme tu le disais, du sprint pur, on peut un peu le rapprocher à l'athlétisme.
Oui,
c'est le premier arrivé, le premier qui gagne.
Exactement.
Hein, y a pas de...
C'est le même principe que l'athlé, des séries, des demi, des finales, avec des tableaux d'accès en fonction du nombre de participantes. Et voilà, alors on a quand même cette dimension collective avec soit le biplace, soit le quatre places. C'est ce qui diffère de l'athlétisme avec les relais, où là c'est un enchaînement de plusieurs athlètes. Nous, on est toutes dans le même bateau. Et là, on peut vraiment aller chercher l'objectif de synchronisation ultime. Le travail collectif, que ce soit sur terre comme sur l'eau, enfin, c'est vraiment passionnant.
Tu parlais donc de 4 places, biplace. Mmh. Toi, je crois que tu as touché un petit peu à tout.
Oui, exactement. J'ai fait les Jeux de Tokyo en 4 places. Et donc là, avec ma coéquipière de biplace, Manon Ostens, on termine 5e au dernier championnat du monde, ce qui qualifie l'embarcation pour les Jeux de Paris.
Tout à fait. Voilà. Bravo.
Merci. Et on est passé pas loin du podium. Et à la fois, on est passé pas loin de la faute aussi, on va dire, parce que les quotas sont super resserrés les années pré-olympiques. Donc, il fallait faire un top 6. On n'est pas assez loin.
Mais ça passe.
Mais ça passe. Et ça passe avec une saison qui a été vraiment très bien construite parce qu'on partait de très, très loin. 16e en Coupe du Monde en début de saison. On a terminé 7e aux Jeux européens dans la foulée. Et en fait, on a réussi avec Manon à vraiment trouver une belle osmose qu'on a beaucoup travaillé sur terre en préparation mentale, avec aussi notre ancien coach Guillaume Berge. Et ce travail-là, il a payé. Et vraiment, moi, je me suis retrouvée dans des états vraiment galvanisée et dans une énergie que je n'avais jamais eue. Donc, j'ai hâte de voir ce que la suite va donner, de retrouver Manon à l'entraînement, de concourir avec elle. Et voilà, je suis pleine d'espoir pour la suite aussi.
Comment ça se passe ces qualifications? Comment est-ce que tu as fait du 4 places, puis du biplace? C'est toi qui choisis ou pas?
Alors ça dépend. Au niveau français, c'est souvent moi qui choisis parce que c'est le club et ils me font confiance là-dessus. Après, j'ai une super coéquipière de club, donc on se pose pas trop de questions non plus. Par contre, au niveau fédéral, c'est vraiment un choix du staff qui est réalisé. Voilà, donc on n'a pas notre mot à dire, mais cette année ça s'est très bien passé, donc il n'y a pas eu de soucis.
Parce qu'effectivement, sur les Jeux de Tokyo, tu le disais, tu n'étais pas sur du biplace.
Non, j'étais en 4 places avec Léa Jamelot, Sarah Guyot et Manon Ostens, qui est encore là. Et voilà, donc c'est des disciplines qui paraissent lointaines quand on les regarde. Et pourtant, en fait, le mouvement est le même, le travail est quasiment le même. Forcément, il y a des petites spécificités, mais globalement, c'est la même chose.
Tu as des préférences?
J'adore l'équipage, j'adore le monoplace. Vraiment, je m'éclate dans ce que je fais, donc j'aime tout. j'adore pratiquer ce sport, donc tout m'éclate. Dernièrement, il y avait quelques filles qui étaient au pôle et en salle de muscu, je leur ai dit ça vous dirait pas un petit tour de K4? Et on s'est retrouvés à 4 filles à monter dans le bateau et c'est toujours génial.
K4, K4, oui, 4 places. On précise, voilà. C'est K1, K2 ou K4.
C'est ça, en fait, c'est et donc si un jour tu reçois une canoë dame, par exemple, c'est donc C pour canoë, donc C1, C2.
C'est pas compliqué.
Non, c'est relativement simple pour le coup.
Ils ont quand même simplifié pour qu'on comprenne assez bien. Tu le disais, tu viens aussi d'une famille qui est 100% kayak.
Canoë aussi.
Canoë, oui.
Canoë et kayak.
Canoë
et
kayak.
On a les deux.
Ah, voilà, on a C et K, on a les deux. Est-ce qu'on a vraiment le choix finalement? J'aime poser cette question, mais de faire autre chose quand on est des familles comme ça qui sont tellement passionnées par une discipline?
J'ai eu complètement le choix. Mes parents m'ont laissé, mais vraiment une marge de manœuvre énorme sur le choix du sport. J'ai fait de l'équitation petite, de l'escalade. On a toujours pratiqué beaucoup de sports outdoor, donc que ce soit en course à pied, en VTT. Mon père a été éducateur sportif pendant un long moment. Ensuite, il est devenu directeur des sports et de la jeunesse dans une ville en région parisienne. Ma maman, initialement, est médecin du sport. Enfin, vraiment, on a une dimension sportive dans la famille qui est énorme. Et j'ai toujours eu le choix. Mes premières licences en kayak, j'y allais quand je voulais. Alors forcément, quand ils ont vu que j'avais une envie de performance, ils m'ont conseillé de m'entraîner avec rigueur. Et je pense que la rigueur, c'est quelque chose qui est très important dans notre famille. On a été vraiment éduqués là-dedans, que ce soit au niveau scolaire que sportif. Mais par contre, j'ai toujours eu le choix. Et j'aurai toujours le choix. Quand j'en parle avec eux, parfois, des petits aléas du haut niveau ou des grosses aléas du haut niveau. Il n'y a aucune pression là-dessus et je suis complètement libre de mes choix.
Est-ce qu'ils comprennent finalement aussi, parce qu'eux-mêmes ont été sportifs dans des disciplines similaires?
Ils comprennent, ils m'accompagnent. J'ai deux grandes sœurs fabuleuses qui ont été en équipe de France de canoë ou de kayak. Donc c'est aussi l'avantage d'être dans une famille de kayakistes, c'est qu'ils comprennent. À la fois, parfois, ça parle un peu trop kayak à la maison, mais on sait se réguler. Et puis j'ai de la chance d'avoir des sœurs qui se sont aussi épanouies dans plein d'autres domaines après. Donc on a beaucoup de sujets de conversation. Maintenant, j'ai deux neveux et une petite nièce qui vient de naître. Donc on a plein d'autres sujets de conversation. Ça va, on parle pas que de kayak non plus.
Bon, ça va. Et quand bien même, hein,
oui, quand, bien même.
Quand on est passionné, j'ai envie de te dire.
C'est ça, exactement.
On parlait, tu le disais tout à l'heure, donc tu as fait déjà une Olympiade. Mm-hmm. Donc si tu... Ce qui est plutôt, on va dire, bien parti pour Paris 2024, ce sera ta deuxième Olympiade.
Exactement.
Comment tu as vécu Tokyo? Je crois que ça a été un peu en demi-teinte.
Ça a été en demi-teinte. Alors, ce qui a été très particulier, c'est que je sortais des équipements de 23 ans avec un niveau qui n'était pas forcément très bon. Voilà, je me sélectionnais en équipement de 23, mais j'ai jamais eu de médaille. La dernière année, j'aurais peut-être pu accéder en tout cas à des hauts tableaux, mais avec le Covid, les courses ont été annulées. Et en fait, j'ai cette explosion de niveau en 2020 qui m'amène sur ces sélections olympiques que je remporte. Et je suis arrivée dans un milieu que je connaissais finalement peu, avec des filles que je connaissais peu. Donc voilà, Tokyo, ça a été particulier aussi avec le Covid. Mmh. Il y a eu une accumulation de petites choses. Je regrette pas du tout. De toute façon, je regrette pas mon parcours parce que aujourd'hui, je vis ma vie de rêve et donc c'est aussi dû à cette accumulation de choses. Voilà, j'aurais aimé mieux le gérer, mais ça n'a pas été le cas. Et aussi, j'ai tiré plein d'enseignements de ça pour la suite.
Tu dis, en 2020, j'ai vraiment eu une explosion de niveau. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je sors...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
D'école de podologie en juillet, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait, en août, je reprends mon bateau, enfin, reprends pour une première compétition post-Covid, et je me suis redécouverte sur l'eau. Ça a été vraiment mais le jour et la nuit. Alors, au niveau technique, je savais qu'il y avait eu des progressions, c'était notable. Pareil, au niveau musculaire, technique, enfin, physiologique, pardon. Mais c'est vrai que je passe cette ligne du 200 mètres en tête, et, parce qu'il y avait encore du 200 mètres à cette époque pour les Jeux de Tokyo et cette Olympiade-là. Et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je captais pas du tout. Et en fait, ça a été mon premier pas vers la deuxième partie de ma carrière, on va dire, où j'ai pris mes aises et j'ai gagné en confiance. Voilà, il y a eu... en fait, je sais pas s'il y a un facteur déterminant. Je pense que l'arrêt de... Enfin, la fin de mes études, ça a beaucoup aidé. Aussi, j'avais initié un travail en prépa mentale depuis quelques années où j'ai réussi vraiment à prendre mes marques en compétition. Et à partir de ce moment-là, je me suis surtout recentrée sur le plaisir de la perf que j'avais pu oublier pendant mes études parce que j'étais un peu tête dans le guidon comme beaucoup d'étudiants qui sont aussi sportifs de haut niveau. Alors que là, je me suis vraiment reconnectée à mes sensations et au plaisir de naviguer. Et c'est essentiel. Et la semaine dernière, j'étais avec les U15 qui étaient en stage nationaux. J'ai fait une petite intervention et c'est ce que je leur martèle en fait, même aux jeunes du club. C'est vraiment... on a un sport qui est fabuleux, on peut être en osmose avec la nature et il ne faut jamais oublier ça.
Tu dis j'ai retrouvé du plaisir, j'ai retrouvé des sensations. Est-ce qu'on arrive vraiment à ressentir du plaisir dans un effort qui est tellement dur?
Alors, ça dépend des moments. En ce moment, j'y arrive vraiment bien et je pense que c'est vraiment la clé pour ma progression. Parce que c'est vrai que... on s'entraîne 3 fois par jour en kayak, c'est quand même des volumes d'entraînement qui sont importants. Mais par contre... maintenant, je m'attelle vraiment à ce que sur chacune des séances, je prenne au moins une note de plaisir. Et c'est un élément qu'on avait bossé aussi avec Manon, c'est que sur notre stage terminal, avant d'aller au championnat du monde, Manon, elle avait dit « moi, je veux que sur chacune des séances, on se marre au moins une fois ». Et en fait, c'était pas du tout fait de manière artificielle. Et je le garde aussi en monoplace et que je m'émerveille un peu de tout maintenant. En muscu, j'arrive à prendre du plaisir, alors qu'avant, c'était un peu le bind, quoi. Enfin, forcément, moi, fille de parents qui font que des sports outdoor, le jour où on m'a mis sous une barre de muscu, je me suis dit, mais c'est quoi ce sport, quoi? Enfin... Et en fait, maintenant, que ce soit en course à pied, en natation, alors que je nage super mal, en vélo, enfin... forcément, on prend pas du plaisir partout, tout le temps. Parce que quand tu fais des VMA, des efforts lactiques, t'en chies. Mais en fait, on peut aussi, je pense, prendre du plaisir dans les moments douloureux. Et cette sensation de se mettre la tête à l'envers, d'aller au bout de soi-même, en fait, le plaisir, je le trouve là-dedans aussi.
Le dépassement de soi.
Le dépassement de soi. Par exemple, j'ai du mal avec l'aérobie, mais la satisfaction que j'ai d'avoir fait un 20 bornes en kayak, par exemple, et d'avoir pu trouver des séquences où j'avais beaucoup de glisse, la satisfaction est tellement intense derrière que ça me coche mes cases plaisir de la semaine.
Pourquoi tu as envie de promouvoir aussi ta discipline ? Tu disais tout à l'heure que c'est une discipline, malheureusement, qui est encore assez niche, qui est assez peu médiatisée. Déjà, le canoë-kayak de base.
Oui, bien sûr.
Encore plus, effectivement, tout ce qui va être sport en ligne, sprint, etc. Quel est, selon toi, justement, l'intérêt de cette discipline ? Pourquoi il faut regarder ce sport ?
Pourquoi il faut regarder ? Pardon. J'ai un chat dans la gorge depuis tout à l'heure.
Tu veux boire un coup ?
Ouais. Merci. Je pense qu'il faut regarder cette discipline parce que quand on connaît le contexte et le pourquoi du comment, on la trouve encore plus belle. Il y a aussi pas mal de rebondissements, même si c'est des efforts de temps qui sont longs. Alors, il y a quand même les garçons en monoplace qui sont sur 1000 mètres, c'est un peu plus long. Mais c'est un sport, quand on s'intéresse au geste, qui est magnifique, il y a une glisse qui est énorme et l'effort est tellement important à produire que quand on a conscience de ça, et ben en fait, c'est complètement fou à regarder, quoi.
Tu parlais de l'osmose avec la nature aussi. Ton environnement, il est important ?
Complètement. Mais vraiment, j'adore. Et alors, les gens me prennent un peu comme pour une folle quand je dis ça. Mais vraiment, mais moi, regarder des hérons cendrés, des cormorans sur les récups, mais je m'éclate. Enfin, quand c'est le printemps et qu'il y a des oiseaux partout, enfin, j'adore ça. Ça nous fait quand même évoluer dans des environnements qui sont fous. Même en région parisienne, à Vers-sur-Marne, le lac est quand même magnifique. Il y a des arbres partout autour.
Il a été beaucoup critiqué pour le coup, quand même.
Oui. Bah, c'est le bassin des jeux, point à la ligne. Voilà. Enfin, faut être performant dessus et forcément, c'est un peu compliqué pour nos collègues qui font du canoë parce que eux, pour le coup, ils pagaient que d'un côté. Donc, ça peut être désavantageant en fonction de l'orientation du vent. Moi, je fais du kayak, j'ai une tige entre les deux pieds pour diriger mon bateau. Je joue avec les vagues. C'est aussi comme ça que j'aime voir ma navigation. Et oui, pour revenir sur les lieux de navigation, je suis licenciée à Angers depuis 3 ans maintenant et c'est un terrain de jeu qui est incroyable. Angers, il y a de la flotte partout, il y a la Maine, il y a le lac de Maine, il y a la Loire, la Mayenne, la Sarthe. Et on découvre aussi nos territoires à travers ces escapades sur l'eau, quoi.
T'as un rapport particulier avec l'eau ?
Oui, alors j'aime pas du tout être dans l'eau. Mais parce que je pense que mes parents ne sont pas des bons nageurs. J'ai été à la piscine forcément pour apprendre à nager quand j'étais petite, mais pas plus que ça. Par contre, vraiment d'être sur l'eau, mais ça me met dans un état de plénitude incroyable.
Question forcément aussi, on parle de ta discipline. Est-ce que pour toi, il y a des références, alors féminines ou masculines, qui sont pour toi l'incarnation totale, le meilleur de ce qui se fait dans ta discipline ?
Bah, il y en a une, forcément. Et s'il y a des kayakistes qui écoutent ce podcast, ils savent déjà de qui je parle avant que je le dise. C'est une athlète, Lisa Carrington, qui est néo-zélandaise, qui est multimédaillée olympique. Elle est incroyable de par sa longévité. On est en sport où quand même, on est à maturité tardive, on va dire. Elle a réussi à être bonne jeune. Et là, elle continue d'être monstrueuse. Et cette fille, c'est un exemple, mais sur tous les domaines, que ce soit technique, physio, mentaux, même si forcément, on sait qu'il y a des moments, il y a des up and down, quoi, enfin, pour tout le monde. Mais elle est incroyable. Elle est dans le partage, là, au championnat du monde. Elle allait voir les jeunes de mon club pour signer des autographes entre deux courses. Vraiment, elle est fabuleuse.
Qu'est-ce que tu attends, toi, de cette discipline ? Est-ce que tu as des ambitions particulières ?
Pour la suite de cette discipline ou moi, à titre perso ?
Toi, à titre personnel.
Moi, à titre personnel. Alors déjà, j'aimerais vraiment poursuivre ma carrière. J'aurai 30 ans à Los Angeles. Donc, ça me laisse encore la fin de l'Olympiade de Paris, puis une autre après. J'attends forcément des pleines performances de ma part. C'est-à-dire atteindre mon 100%. Je contrôlerai jamais le niveau des autres. Mais par contre, terminer des courses en sachant que j'ai fait le maximum à l'entraînement, j'ai fait le maximum de ce qui pouvait être fait au journalier et que le jour de la course, j'ai réussi à m'exprimer à mon plein potentiel. Ça, c'est vraiment des satisfactions que j'adore et qui me font continuer. Et après, de continuer à prendre du plaisir tous les jours. Je veux pas devenir une kayakiste aigrie qui râle à l'entraînement. Alors forcément, ça m'arrive de temps en temps. Je me fais des rappels à l'ordre et je demande à mes proches de me rappeler à l'ordre. Mais vraiment, oui, de continuer à prendre du plaisir sur l'eau et à te partager avec les jeunes, c'est un truc que j'adore faire.
Tu trouves que tu as encore un potentiel de progression qui est grand ?
Mais c'est à toi de me dire, j'ai gagné 3 secondes la saison dernière. Est-ce que mon potentiel de progression est encore bon ? J'imagine, oui. Je pense que j'ai vraiment compris comment je fonctionnais, aussi bien dans ma tête que dans mon corps. Et j'ai vraiment moyen d'aller chercher des secondes encore.
Il y a de grandes chances que tu te qualifies du coup sur le biplace avec Manon sur les jeux. Alors, le bateau est qualifié, mais après, les personnes qui sont dedans, c'est malheureusement pas vous qui choisissez.
Oui.
Après, le fait que vous ayez qualifié bateau, en tout cas, on va dire, vous tenez une jambe déjà quand même dans l'embarcation.
Mais on n'a pas les deux dedans, et tant que j'aurai pas les deux dedans et que mon nom sera pas inscrit sur le papier, et je serai pas qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais de toute façon, je m'entraîne pour aller chercher une médaille aux Jeux. Donc, mon chemin doit passer par la qualification et c'est comme ça.
Ton état d'esprit vis-à-vis de Paris 2024, c'est quoi ? C'est lequel ?
Je suis engagée, je vais dire. Je pense qu'à ça. De toute façon, je pense comme tous les athlètes qui préparent les Jeux actuellement. Je pense qu'à ça parce que forcément, je mange kayak, je dors kayak, je m'entraîne kayak, je respire kayak même. Forcément, on a ça en tête tout le temps. Et en plus, dans notre quotidien de sportif en ce moment, de sportiveux, on est beaucoup sollicité quand même par rapport à ces Jeux à la maison. Donc, on l'a tout le temps en tête. Mais c'est un plaisir aussi. C'est un plaisir. Et moi, je m'entraîne sur le bassin des Jeux. Tous les jours, je passe sur la ligne d'arrivée. Et je me dis, j'espère qu'en 2024, ce sera. Enfin, pour les Jeux 2024, ce sera mon bateau devant avec Manon et notre bateau. Et ce sera sur la finale des Jeux, quoi.
Tu te projettes dans cette image ?
De plus en plus. J'ai eu beaucoup de mal parce que ça me paraissait très lointain. L'obtention des quotas olympiques, c'est vraiment dur et on partait de loin. Mais depuis les championnats du monde, on a vraiment fait une bonne perf. Je suis persuadée qu'on a encore de grosses choses à aller chercher ensemble parce qu'on est quand même un jeune bateau, contrairement à d'autres qui ont quand même beaucoup plus bossé ensemble. On a une relation de confiance qui s'est créée, qui est vraiment importante. Et là, tout se met en place pour que ça se passe bien. Donc, il n'y a pas de raison.
La jeunesse impétueuse.
Et je suis plus si jeune que ça, moi.
Mais si,
25 ans.
Enfin.
Les jeunes me prennent pour une vieille peau, déjà.
Bon, ça, on n'en parlons pas. Je ne rebondis pas là-dessus. Et donc, ce format aussi du podcast est pour découvrir des pépites françaises.
Oui.
Si toi, tu devais nous faire connaître une autre sportive, dans une autre discipline.
Dans une autre discipline. Mais alors, du coup, aujourd'hui, on est à Clairefontaine parce que je suis en séminaire avec la police nationale qui est mon employeur et on a la chance maintenant d'avoir l'équipe police nationale. Du coup, je dirais une fille de l'équipe. Hier à table, j'étais avec Sephora Corchet qui fait du sambo, qui vient du judo. C'est une boule d'énergie. Je pense que si tu l'interviews, tu vas pas t'ennuyer.
Très bien. On note le nom. Écoute, merci beaucoup. On arrive déjà au bout des 20 minutes. Ça va très vite.
Ça va vite.
Ça va très vite. Mais merci pour ces explications qui étaient très claires.
Avec plaisir.
Et merci de nous partager un petit peu de ta discipline. Donc, allez suivre Vanina Paoletti sur les réseaux sociaux. On suit ton parcours. On saura du coup pour la qualification olympique quand ?
Courant mai. Les courses sont du 10 au 12 mai.
Très bien. Mais écoute, on te souhaite bonne chance.
Merci. Merci de m'avoir reçue.
Merci à toi. Et puis, je te dis à très bientôt.
À bientôt.
Et merci encore. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.